Vous écoutez, on lit pour vous.
Peut-on manger sans se nuire? Un dossier de Stéphanie Bérubé, paru le 8 décembre 2024 dans la presse. Une alimentation riche en complexité. Pris entre des considérations budgétaires, nutritionnelles et éthiques, les consommateurs se sentent démunis dans leur cuisine. À la veille des grands repas des fêtes, une question se pose. Peut-on manger encore sans culpabiliser? Afin de faire un geste d'économie circulaire, vous achetez votre farine faite de récupération de drèches de bière d'une microbrasserie locale pour faire vos scones, que vous allez servir avec une petite terrine de poisson. Soudain, un doute vous assaille. Serait-ce mieux d'acheter une truite d'élevage du Québec ou du saumon sauvage certifié pêche durable? Et les tomates, on les prend d'une serre d'ici ou de champs du Mexique? Heureusement, vous ne vous trompez pas pour le vin. Un bon Vidal des cantons de l'Est bien frais. À moins que le Riesling biodynamique des Finger Lakes aux États-Unis soit une meilleure option. Non, vous n'êtes pas fou. L'alimentation s'est complexifiée dans la dernière décennie, confirme Bobby Grégoire, conseiller pour l'Amérique du Nord du mouvement Slow Food et consultant en alimentation durable. Il y a 10 ans, dit-il, on était vraiment sur des notions de santé. On parlait de pesticides, de gras trans, de notre santé à nous. Des appellations comme « biologique » ou les certifications équitables sont maintenant bien comprises par les consommateurs, selon lui. Or, de nouveaux concepts émergent. Constamment. On observe maintenant qu'il y a de plus en plus d'allégations environnementales et d'économie circulaire, dit Bobby Grégoire, qui ajoute que les valeurs anti-gaspillage viennent aussi jouer dans cette zone. Ce n'est pas tout. Les qualités des aliments fonctionnels ont changé. Elles se sont raffinées. Les clauses d'aliments santé d'il y a 10 ans qui étaient génériques sont aujourd'hui ultra précises, dit-il. Et c'est présenté dans un jargon auquel monsieur et madame tout le monde n'ont pas accès, poursuit-il. Alors, on voit ces allégations, mais on n'a pas les outils pour les comprendre, surtout pour l'aspect nutritionnel. L'assiette de santé planétaire. En novembre 2024, un regroupement de personnalités de différents horizons a écrit au ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, pour lui demander de mettre en place une stratégie québécoise pour favoriser des tendances alimentaires plus durables et soutenir les productions agricoles d'avenir. On n'est pas là pour dicter une religion. Mais des principes de base sortent de la littérature scientifique et il faut les faire connaître dans la population, explique Renaud Gignac, avocat et économiste et maintenant président du regroupement Transition Alimentaire Québec. Présentement, notre système alimentaire est en surchauffe environnementale. Ça ne peut pas durer. D'après l'Institut de la statistique du Québec, l'alimentation arrive au 2e rang du bilan des gaz à effet de serre, GES, des ménages québécois, derrière les combustibles fossiles. Et il y a un angle mort dans notre politique environnementale à ce sujet-là, poursuit Renaud Gignac. Le groupe cite en exemple l'assiette de santé planétaire, ce guide développé en 2019 par la Commission internationale Eat Lancet, et qui conseille de limiter les produits animaliers dans l'assiette. On mange quoi, alors? Surtout des plantes, fruits, légumes et grains entiers, des noix, des protéines végétales, un peu de viande, un peu de lait. L'ordonnance n'est pas révolutionnaire. C'est grosso modo ce que prônait l'auteur américain Michael Pollan dans son livre « Le dilemme de l'omnivore » paru en 2006. Manger des aliments, pas trop, et surtout des plantes, concluait Pollan. On met de l'avant le consensus scientifique, répète Renaud Gignac. Ensuite, les gens sont libres de faire leur choix, mais les faits ont la tête dure. L'avocat se veut rassurant. Il ne condamne pas à mort le pâté chinois. Il n'est pas question d'abandonner notre patrimoine culinaire, dit-il, mais de le faire évoluer. On peut végétaliser certaines recettes qui sont dans notre patrimoine. La sauce à spaghetti, la tourtière. C'est possible d'avoir des équivalents végétaux et c'est un mouvement qu'on voit déjà. Selon Statistique Canada, depuis 15 ans, la consommation de lait diminue alors que la consommation de noix augmente. Vous écoutez « Peut-on manger sans se nuire ?» un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 8 décembre 2024 dans La Presse. Les plus sceptiques sauteront déjà sur l'occasion pour rappeler que certains substituts végétaux se sont révélés avoir aussi des impacts environnementaux négatifs. On pense tout de suite à l'industrie de la culture d'amande en Californie, qui demande beaucoup d'eau dans un État qui en manque souvent. Mais aussi à la culture des avocats, qui a provoqué de la déforestation au Mexique, premier pays producteur mondial. L'omnivore consciencieux n'est pas à un dilemme près. Si on ne fait que le calcul environnemental, inévitablement, on laisse de côté parfois l'alimentation locale, puisque le transport ne pèse pas toujours très lourd quand on fait une analyse globale de l'aliment, particulièrement lorsqu'il est question de viande où c'est l'élevage qui a le plus d'impact. L'idée de faire une analyse du cycle de vie de l'aliment est devenue plus répandue. Mais ce n'est toujours pas une information largement disponible pour le consommateur qui, à ce stade-ci, en a déjà plein les bras. Pire, dit Bobby Grégoire. Poussé par le désir de présenter des aliments très verts, l'industrie alimentaire s'est emparée du filon. Pour l'aspect environnemental, le greenwashing n'a jamais été aussi poussé. La carboneutralité, ça ne veut rien dire. Même le terme éco-responsable, que j'utilise moi-même parce qu'il évoque des principes, peut vouloir dire tout et son contraire. Rien pour simplifier la vie des consommateurs qui doivent jongler avec énormément de facteurs chaque fois qu'ils prennent le chemin de l'épicerie. 37. Il faut 37 litres d'eau pour produire un litre de boisson d'amande. Il faut 120 litres d'eau pour produire un litre de lait de vache. Source, Journal Science, Joseph Poor et Thomas Nimixinikis, Université d'Oxford, 2019. 9%. Proportion des Canadiens qui sont végétariens ou végétaliens. Source, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, MAPAC, d'après une étude Léger de 2019. 28%. Plus du quart des Québécois ne sait pas comment s'y prendre pour réduire son impact environnemental. Source, baromètre de la consommation responsable 2023 de l'Observatoire de la consommation responsable ESG-UQAM. Éviter le risque de décrochage. La confusion en alimentation vient des études et des prétentions de l'industrie, bien sûr, mais aussi des modes qui passent et portent chacune des mouvements qui semblent apporter la meilleure solution à nos angoisses nutritionnelles. Le keto, le paléo, les cures de désintox, l'alimentation tonique, etc. De nouvelles technologies font leur apparition. Des ingrédients émergent. Qui mettait du collagène marin dans son smoothie matinal avant la pandémie? Idem pour l'élevage d'insectes qui prend de l'ampleur et qui s'est récemment retrouvé au milieu d'un débat politique alors que le chef conservateur, Pierre Poilievre, relayait une pétition de son parti afin de s'assurer qu'on ne forcerait jamais les Canadiens à manger des insectes pour sauver la planète. Ceux et celles qui en ajoutent dans leur mets aiment bien pourtant le fait que c'est une source de protéines, souvent locale, qui a une faible empreinte environnementale. Julie Fauché enseigne à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, ITHQ, depuis une trentaine d'années. elle a vu de nombreuses modes alimentaires venir et passer. Ses observations? D'abord, l'inflation a modifié nos comportements d'achat. Depuis la dernière année et demie, le prix fait foi de tout, nous dit-elle. Madame Fauché rappelle que la multiplication de l'offre alimentaire chez des détaillants comme Walmart ou Dollarama est un indicateur sérieux de cette quête du meilleur prix au détriment d'autres critères de choix alimentaires. Ensuite, il y a un risque réel que les discours qui touchent à l'alimentation durable soient prononcés et entendus par le même groupe. Autrement dit, que l'on se trouve dans une chambre d'écho et que les gens qui réduisent leur consommation de viande soient aussi ceux qui ont réduit, voire stoppé, leur voyage en avion, par exemple. Le groupe qui est prêt à faire un effort est saturé, dit Julie Fauché. On parle à des gens déjà convertis. Il y a une saturation dans l'adhésion à une alimentation plus végétale. Vous écoutez « Peut-on manger sans se nuire ?» un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 8 décembre 2024 dans la presse. Finalement, le consommateur a aujourd'hui beaucoup de choix. Énormément, en fait. Il y a beaucoup plus de propositions d'aliments, dit la professeure Julie Fauché, qui enseigne la nutrition végétale et la chimie alimentaire. Elle donne en exemple la vaste offre de produits sans gluten. La même bonification s'est vue dès l'entrée au supermarché dans les produits frais. Les pommes de terre sont classées par variété maintenant, énumère-t-elle enthousiaste. On retrouve aussi plein de champignons. Selon Julie Fauché, la surabondance d'informations et le fait qu'en alimentation, ces informations se contredisent parfois peuvent toutefois mener à une certaine méfiance, voire au cynisme des consommateurs qui risquent de décrocher. À la fin, dit-elle, ils finissent par se dire « Allons-y au plus simple ». On développe une paresse alimentaire, on ne se donne plus la peine de cuisiner et d'expérimenter des choses. Bobby Grégoire arrive au même constat. Avec les prix en hausse à l'épicerie, logiquement, on devrait cuisiner plus, dit-il. La réalité est que quand on est stressé, on ne va pas apprendre de nouvelles compétences et on n'aura pas envie d'essayer de nouvelles choses. Un exemple. Le recul des commerces zéro déchet depuis la fin de la pandémie. C'est une habitude que les gens avaient adoptée, dit Bobby Grégoire, mais avec le stress, on retourne dans nos vieilles habitudes qui demandent le moins de réflexion possible. C'est pour ça que les boîtes repas ont explosé durant la pandémie et que certaines sont encore très populaires aujourd'hui parce que c'est pratique et on gagne du temps. Mais surtout, on épargne de la réflexion. Est-ce qu'on est près du point de bascule? Est-ce que certains consommateurs pourraient souffrir d'un burn-out alimentaire? C'est vraiment un risque, répond Véronique Provencher, directrice scientifique de l'Observatoire de la qualité de l'offre alimentaire de l'Université Laval. Et ça peut rehausser certaines inégalités, poursuit-elle. Les gens qui s'intéressent à l'alimentation, qui ont plus de compétences, finissent par s'améliorer et c'est bon pour leur santé. D'autres, qui n'ont ni ces outils, ni ces compétences, perdent le fil et peuvent décrocher. On exclut donc de facto une partie de la population. Ça nous intéresse beaucoup en santé publique, en lien avec les inégalités sociales. Il faut être très prudent. On est rendu très loin du plaisir de manger un bon repas, simplement, le dimanche soir. Toutes ces contraintes qu'on veut respecter s'ajoutent à la charge mentale, conclut la nutritionniste Véronique Provencher. Et on sait que c'est encore beaucoup les femmes qui s'occupent de l'alimentation dans les familles. Qu'est-ce que la littératie alimentaire? Ce sont nos connaissances, nos compétences et nos comportements face à notre alimentation qui influence nos capacités à planifier et gérer nos repas, à sélectionner nos aliments, à préparer nos repas et qui influence notre façon de les consommer. 1 223 $ coût par mois en juillet 2024 du panier d'épicerie nutritif pour une famille montréalaise de 4 personnes. Source: Alima, Centre de nutrition sociale périnatale. 66%. Les 2/3 des Québécois disent que les produits locaux sont trop chers pour leur budget. Source: Baromètre de la consommation responsable 2023 de l'Observatoire de la consommation responsable, ESG UQAM. 25 kg par personne. La consommation moyenne de bœuf diminue au pays. En 1980, elle était de 39 kg par Canadien. 20 ans plus tard, elle avait chuté à 32 kg et en 2020 à 25 kg. Source: Statistique Canada. 73%. Proportion des femmes qui se disent majoritairement responsables de la préparation des repas à la maison. Les femmes de 50 ans et plus ont par ailleurs le plus haut taux de littératie alimentaire. Elles ont plus de connaissances et de compétences que les hommes de leur âge et que les hommes et les femmes plus jeunes. Source: Étude réalisée par le Centre Nutrition, Santé et Société, NUTRISS, de l'Université Laval, auprès de la cohorte Nutri-Québec. Vous écoutez « Peut-on manger sans se nuire ?», un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 8 décembre 2024 dans La Presse. Comment faire les bons choix? Avant de se dire qu'on ne peut plus rien manger sans compromettre son budget, sa santé ou la planète, voici des pistes de réflexion pour faire des choix éclairés et éviter de baisser les bras en cuisine. Acheter de la qualité. En choisissant le prix, tu fais parfois le mauvais choix, lance le restaurateur Michele Forgione, qui estime que tout le monde peut se permettre de bons ingrédients pour cuisiner. Inévitablement, cuisiner, transformer soi-même des ingrédients de qualité, coûte moins cher que d'acheter un produit fini moyen. Son conseil: regardez la provenance. Une patate, c'est une patate, dit-il. Mais d'où vient ta patate? Faire l'effort de connaître l'origine de ces aliments est une bonne façon de reprendre confiance dans le système alimentaire et, estime M. Forgione, de se donner confiance en cuisine. Faites vos recherches. Michele Forgione termine actuellement une formation en chimie des aliments. Si le mangeur moyen n'a pas besoin d'étudier à Harvard pour faire son épicerie, le chef est catégorique. Il faut se donner des outils de base pour ensuite faire les meilleurs achats. Par exemple, le sucre. Si on ne regarde que la quantité et que le produit contient des fécules, on n'est pas plus avancé car ça va se convertir en sucre. M. Forgione précise: il faut regarder les étiquettes et fuir comme la peste les produits qui ont une longue liste d'ingrédients nébuleux. Lisez les étiquettes. Pour séparer le bon grain de l'ivraie, un nouveau symbole fait son apparition sur les produits transformés vendus au Canada. Une petite loupe qui indique les aliments qui contiennent trop de gras, de sucre ou de sel. L'industrie a jusqu'en janvier 2026 pour se conformer à cette nouvelle réglementation. Ça a ses limites, prévient toutefois la nutritionniste Véronique Provencher. Ça ne nous donne pas une idée de la qualité globale de l'aliment ou de son impact environnemental. Mais l'étiquetage nutritionnel étant encadré au Canada, ça vaut la peine de prendre le temps de le consulter, dit-elle. Faites-vous plaisir. Tous les intervenants consultés pour ce reportage sont d'accord sur un point. Le stress est le pire ennemi de la vertu dans la cuisine. Alors, si vous avez envie d'un pâté chinois, faites-en un pour que ça sente un peu comme dans votre enfance dans la maison. Votre mère le gratinait. Avec du vrai fromage, allez-y. Vous avez maintenant l'embarras du choix, et vous pouvez même opter pour une solution de rechange si vous faites un pâté chinois végétalien. Vous manquez de temps aujourd'hui? Achetez-le tout fait. Prêchez par l'exemple. Ma mère cuisinait, lance le chef entrepreneur Michele Forgione, qui précise qu'il ne vient pas d'un milieu aisé, mais d'une grande richesse, parce que la santé a toujours été une priorité. La famille mangeait des aliments frais, sains, et la cuisine était le cœur de la maison. « On a toujours bien mangé », insiste-t-il, et selon la recette méditerranéenne qui prône la variété dans l'assiette. Des légumes, des fruits, du poisson, des protéines, un peu de pâte. Le fils a été inspiré par sa mère, il l'est toujours. Concentrez-vous sur un élément. Plutôt que de vouloir régler le sort du monde, de son voisin, et d'analyser la valeur de tous les produits, pourquoi ne pas cocher une seule case? C'est ce qu'a fait Elisabeth Cardin, autrice du livre « L'érable et la perdrix, l'histoire culinaire du Québec à travers ses aliments ». Dans son cas, le choix n'a pas été difficile à faire. Elle choisit l'alimentation de proximité. Alors, des tomates de serre ou importées en décembre? Je mange des tomates quand c'est le temps des tomates, tranche-t-elle. Et je mange des asperges quand c'est le temps des asperges. Quand tu as mangé quelque chose qui pousse ici versus autre chose, tu ne peux pas t'obstiner. Tu ne peux pas dire que c'est équivalent en saveur. Ce n'est pas vrai. C'est meilleur. Faites l'épicerie sans liste. Ça peut sembler antinomique, mais ça permet de se reconnecter avec ce qui est en saison, estime l'autrice et artiste Elisabeth Cardin. Si tu as envie de manger une salade d'asperges avec des choux de Bruxelles, ça part mal. Les asperges et les choux de Bruxelles, ça ne pousse pas en même temps, illustre-t-elle. Partir au marché comme à l'aventure pousse à chercher des ingrédients frais. Tu vas être tenté de te demander ce que tu peux faire avec ça. Pas de risque que l'assiette devienne un peu triste en décembre. Elisabeth Cardin ajoute de la couleur avec des radis melons d'eau, des choux de toutes les teintes, le mauve fluo des betteraves sucrées. Essayez quelque chose de nouveau. Plus de la moitié des Québécois ont réduit leur consommation de viande, selon l'Observatoire de la consommation responsable de l'ESG UQAM. Ça veut dire, donc, que de nouveaux aliments continuent de s'inscrire dans nos menus, qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs. Julie Fauché croit que la responsabilité de chacun se passe à l'épicerie, que les choix comptent et qu'ils sont parfois moins complexes qu'on l'imagine. Pourquoi ne pas sortir de sa zone de confort alimentaire culinaire? À côté du poulet barbecue, dit Julie Fauché, il y a une autre option. C'était « Peut-on manger sans se nuire ?» un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 8 décembre 2024 dans La Presse.
Les personnes âgées vivant avec le VIH. Un texte de Charles Gagné, paru le 25 novembre 2024 dans le magazine Fugue. Au Global Village de la Conférence internationale sur le VIH de Munich 2024, une table ronde avec de nombreuses personnes aux cheveux grisonnants a attiré l'attention. La Silver Zone, un espace dédié aux personnes âgées vivant avec le VIH. Les personnes âgées vivant avec le VIH se sentent souvent isolées. Leurs droits et leur dignité sont parfois négligés et elles sont incertaines quant à l'avenir. Sur le stand, un texte explicatif. Notre objectif est de fournir un espace pour la socialisation et la mobilisation, en sensibilisant aux forces, aux besoins de soutien et aux expériences des personnes âgées qui partageront leurs expériences, défis et stratégies pour bien vieillir. Une large gamme d'activités sera proposée. Celle-ci inclut des dialogues intergénérationnels favorisant la compréhension et le respect entre les personnes vivant avec le VIH de tous âges. Des tables rondes et des intervenants, intervenantes présentant des preuves sur les facteurs affectant le bien-être global, une affirmation de soi par des projets artistiques, des ateliers, des projections de films et des récits, et la traduction des leçons apprises en recommandations pour des changements de politique visant à améliorer l'équité et la qualité de vie des personnes âgées vivant avec le VIH. Au cours d'un des débats autour des traitements VIH, un homme, la soixantaine, se lève et prend la parole. « Cela fait 28 ans que je prends des ARV. J'ai voulu passer au traitement injectable, mais mon médecin me l'a refusé. » Un autre homme lui répond « Changez de médecin. » Le mien ne voulait pas non plus et il ne voulait pas entendre parler de I égale I. Indétectable égale intransmissible. Pour lui, c'était condom obligatoire même avec une charge virale indétectable. Il faut cesser de se faire dicter nos vies par nos médecins. L'empowerment n'a pas d'âge et il n'est jamais trop tard pour prendre ou reprendre le pouvoir sur sa santé. C'était « Les personnes âgées vivant avec le VIH ». Un texte de Charles Gagné paru le 25 novembre 2024 dans le magazine Fugue.
Ces aînés qui comptent sur l'argent comptant. Un dossier de Marc Tison paru le 23 juin 2024 dans la presse. Leurs rangs sont de plus en plus clairsemés, mais certains aînés réfractaires aux transactions électroniques, tiennent mordicus à payer en espèces froissables ou trébuchantes. Pour beaucoup, c'est une décision parfaitement assumée. Mais d'autres voient se dresser devant eux une intimidante muraille numérique. Leurs proches peuvent les aider à y faire une brèche. Heureux de payer comptant. Un exemple proche donc vécu, la mère du journaliste. C'est une dame octogénaire, intelligente et curieuse de tout, sans problème cognitif. Mais elle n'a jamais eu d'ordinateur ni réussi à apprivoiser l'Internet, la tablette électronique, voire le téléphone cellulaire. Tétanisée par un clonage subi sans trop de dommages il y a une douzaine d'années, elle ne s'est pratiquement plus servie d'une carte bancaire. Ses transactions annuelles sur carte de crédit se comptent sur un doigt. L'entretien annuel de sa voiture, qu'elle a conservé plus de 20 ans et dont elle s'est départie il y a peu. Hormis deux ou trois fois en présence d'un de ses enfants, elle n'a jamais retiré d'argent au guichet automatique. À intervalles de 3 semaines, elle fait un retrait à sa succursale, toujours au comptoir, en présentant un carnet bancaire qui ne déparerait pas un écomusée. Tout est payé comptant. Épicerie, vêtements, achats à la pharmacie, même le dentiste. Elle dépense peu, il est vrai, mais presque toujours en espèces. Elle n'est pas la seule. Sans faire d'âgisme, certains aînés d'une catégorie d'âge ont été habitués à l'argent comptant et ne connaissent pas bien les ordinateurs, relève Gisèle Tassé-Goodman, présidente du réseau FADOC. Au restaurant, pour leur café, leur beigne, ils préfèrent payer avec un billet de 20 $ que de prendre la carte de crédit ou payer simplement sans contact. Dans cet attachement au billet de banque, on discerne une part de fidélité aux traditions, mais on perçoit aussi en filigrane le rassurant contact avec des objets concrets. Gisèle Tassé-Goodman établit une analogie avec la manipulation des pages d'un livre véritable plutôt que le glissement d'un doigt sur la lisse et froide surface d'une tablette. Les gens ont le contrôle de leurs 20 $ dans leurs mains. « Dans leur portefeuille, décrit-elle. L'usage de l'argent comptant n'est pas qu'une question de billets. Il faut aussi compter avec la monnaie. Une scène croquée à la mi-juin dans un supermarché de l'Est de Montréal. Un vigoureux septuagénaire paie comptant quelques articles à la caisse rapide. La caissière compte et prélève dans la main tendue du client les pièces qui feront le paiement exact. « Je fais ça souvent et ça me fait plaisir », lance Daniel la caissière. Aucune déficience technologique ici. L'homme porte un téléphone intelligent dans un étui accroché à sa taille. Pour beaucoup d'aînés, ce n'est pas tant un billet favorable envers les billets qu'un billet défavorable à l'égard des paiements électroniques. Il est compréhensible, nous dit Gisèle Tassé-Goodman, que certaines personnes aient des réticences avec les nouvelles technologies numériques, tout spécialement avec leurs finances personnelles, avec les fraudes qu'on signale dans les services bancaires en ligne, les guichets automatiques, les transactions par carte de crédit. Ce sont des choses qui font peur à certains aînés et ils préfèrent payer comptant que de payer avec une carte de crédit ou d'aller pitonner sur un ordinateur pour payer une facture d'Hydro-Québec ou de télécommunications. D'autres craignent que la maladresse technologique les mène à la gaffe numérique. Il y a beaucoup d'obstacles. Le fait de ne pas comprendre comment ça fonctionne, le manque de confiance en la technologie, la peur de se tromper, de ne pas savoir quoi faire si un pépin survient, ou même la crainte de faire attendre les autres clients derrière soi lorsqu'on paie à la caisse, énumère Brigitte Gilbert, neuropsychologue clinicienne spécialisée en gériatrie. Il ne faut pas oublier que pour certains aînés, le fait de se rendre à la banque est aussi une occasion de socialiser, ajoute-t-elle. Vous écoutez? Ces aînés qui comptent sur l'argent comptant, un dossier de Marc Tison, paru le 23 juin 2024 dans la presse. Une question de littératie. On a une perception négative des personnes âgées par rapport à leur capacité numérique, mais dans les faits, avec le bon accompagnement et la bonne approche, ces gens-là sont capables d'utiliser des technologies numériques, constate pour sa part Patrick Boissy, professeur titulaire de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke et chercheur au Centre de recherche sur le vieillissement du CIUS Estrie CHUS. Mais ils vont les utiliser pour faire des choses qu'ils veulent faire. Ils mènent notamment des recherches sur la télésanté auprès des personnes âgées, dont certaines ont dû acquérir les compétences numériques nécessaires à leur pleine participation. Il y a tout un système d'apprentissage dans les deux premières semaines pour les amener à un niveau de littératie numérique approprié à ce qu'on fait. Et ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que la littératie numérique est spécifique à ce que tu veux faire. Les personnes âgées détiennent souvent une tablette électronique, souligne Patrick Boissy, mais qu'est-ce qu'elles font avec leur tablette à part lire la presse? D'une certaine façon, il faut les accompagner, les amener à voir des bénéfices dans une activité pour qu'elles soient capables de la réaliser et prendre confiance. Au chapitre des transactions bancaires, il donne l'exemple des indemnités compensatoires versées aux participants par virement Interac. Sur les 35 participants, il y en avait peut-être 8 pour lesquels il a fallu produire un chèque, indique-t-il. La bonne nouvelle, c'est que 3 de ces 8 personnes ont pu être accompagnées et ont accepté un virement Interac. Elles font maintenant des transactions avec des virements Interac. La fracture numérique intergénérationnelle n'est plus ce qu'elle était avant la pandémie, qui a incité, sinon forcé, de nombreux aînés à s'initier aux technologies informatiques. Il y a de moins en moins de gens qui vont être dans ces situations-là, mais il y a une tranche d'aînés présentement qui vivent une exclusion numérique dans le cas des applications de transactions bancaires, clairement, assène-t-il. Vivre et laisser payer. Quoi qu'il en soit, le paiement comptant demeure un choix valide et pertinent. Ces personnes ont des habitudes. Il faut respecter ça, fait valoir la présidente du réseau FADOC. Il ne faut pas forcer la note, puis s'imaginer que tout le monde va se tourner vers les nouvelles technologies de l'information. Vous savez, c'est important de souligner que les personnes aînées sont de plus en plus branchées, ajoute-t-elle. C'est exact, et les chiffres le montrent. Je suis contente de voir l'évolution de ce côté-là, mais pour ceux qui ne veulent pas, moi, je me dis, acceptons cette situation, on est tous différents, et c'est là que nous sommes rendus. Des chiffres qui comptent. Les aînés sont de plus en plus branchés. L'étude de Net Tendance 2022 a révélé que 78% des personnes aînées québécoises naviguaient au moins une fois par jour sur l'Internet, se réjouit Gisèle Tassé-Goodman, présidente du réseau FADOC. La proportion a grimpé à 82% en 2023. 8 aînés sur 10 naviguent sur le web. Pourcentage des aînés québécois qui naviguent quotidiennement sur l'Internet. 4 points de pourcentage de plus depuis 2022 et 20 points de plus depuis 2019. 65 ans et plus, 82%. 65 à 74 ans, 86%. 75 ans et plus, 75%. La majorité est connectée. Pourcentage des aînés du Québec disposant d'une connexion Internet à la maison. 2 points de pourcentage de plus depuis 2022. Ensemble des adultes québécois, 93%. 65 ans et plus, 85%. 65 à 74 ans, 89%. 75 ans et plus, 78%. La moitié des aînés achètent en ligne. Ils ont fait au moins un achat en ligne en 2023. Ensemble des adultes québécois, 74%. 25 à 34 ans, 89%. 65 à 74 ans, 62%. 75 ans et plus, 43%. Plus de la moitié des 75 ans et plus fait des opérations bancaires en ligne. Utilisation de l'Internet pour effectuer des opérations bancaires en 2023. Ensemble des adultes québécois, 84%. 25 à 34 ans, 94%. 65 à 74 ans, 80%. 75 ans et plus, 57%. Peu d'aînés utilisent le paiement mobile. Moins d'un aîné québécois sur 10 affirme avoir utilisé le paiement mobile sur téléphone intelligent au cours des 12 derniers mois, 2023, en utilisant des applications comme Apple Pay ou Google Pay. Ensemble des adultes québécois, 37%. 18 à 25 ans, 81%. 65 à 74 ans, 8%. 75 ans et plus, 6%. Un peu plus craintif, mais pas tant. La crainte de la fraude et du vol d'identité n'est pas l'apanage de la vieillesse. Une étude publiée en avril 2024 montre que 70% des adultes québécois sont très ou assez préoccupés par la protection de leurs données de transaction. Mais la proportion atteint 89% chez les 75 ans et plus. 70% des adultes québécois se disent très ou assez préoccupés par la protection de leurs données de transaction comme les numéros de carte de crédit lors des achats en ligne. Ensemble des adultes québécois, 70%. 18 à 24 ans, 62%. 25 à 34 ans, 66%. 35 à 44 ans, 78%. 45 à 54 ans, 62%. 55 à 64 ans, 72%. 65 à 74 ans, 72%. 75 ans et plus, 89 %. Vous écoutez, ces aînés qui comptent sur l'argent comptant, un dossier de Marc Tison, paru le 23 juin 2024 dans la presse. Moins de paiements en espèces, mais plus de billets. Le nombre de transactions en argent comptant a diminué de moitié depuis 5 ans. Mais rassurez-vous, les billets de banque ne sont pas encore menacés de disparition, estime Andrix Vachon, économiste principal chez Études économiques Desjardins. Il n'y a pas de pays qui a dit « non à l'argent comptant, on n'en veut plus », déclare-t-il. Mais on constate quand même qu'il y a une multiplication des modes de paiement. Les modes plus anciens persistent, comme les billets et les chèques, même si ces derniers sont en nette diminution. Force est d'admettre qu'il y a encore de l'argent comptant dans l'économie, ajoute-t-il. Au Canada, il y en a de plus en plus. Au Canada, la valeur des billets en circulation était passée de 89 milliards de dollars en janvier 2020 à 120 milliards à la fin de 2022, alors que la pandémie et le confinement incitaient à la thésaurisation domestique. Cette valeur avoisinait encore 117 milliards au début juin 2024. Même si les billets occupent une part un peu moins importante dans les paiements en moyenne, il reste qu'il y a quand même encore une certaine masse critique de la population qui les utilise, observe l'économiste. Si ce n'est pas pour des paiements courants tous les jours, il y a quand même encore beaucoup de gens qui aiment détenir quelques billets dans leur portefeuille ou dans une enveloppe à la maison, au cas où. Et ce n'est pas seulement les personnes âgées. Je vais me confesser, moi-même, j'utilise encore l'argent comptant. Ça me sécurise. Défi, trouver et utiliser des billets. Les aînés utilisent des billets de banque dans la mesure où ils peuvent en trouver. C'est difficile, surtout là où il y a des fermetures de banques et de caisses. Ça crée un problème, soulève Gisèle Tassé-Goodman, présidente du réseau FADOC. Ce qu'on demande, c'est que les institutions financières soient à l'écoute des besoins de leurs membres, surtout en région. Les gens ont besoin de l'épicerie, de la caisse du coin, du coiffeur. Quand on ferme l'institution financière, les personnes d'un certain âge qui paient comptant et qui ont très peu de moyens de transport ne sont plus en mesure de faire des retraits. On demande aux institutions d'être sensibles à ça, de reconnaître leur milieu et d'accepter qu'il y aura encore des gens qui vont préférer utiliser l'argent comptant. De la même manière, le réseau FADOC demande que les commerces, entreprises de services et autres organismes accompagnent leur clientèle vieillissante dans la transition numérique. C'est nécessaire qu'ils s'adaptent aux changements en fonction des rythmes d'apprentissage de leurs clients, insiste sa présidente. Pas d'espèces. Car la difficulté ne consiste pas seulement à trouver des billets, mais également à s'en servir, à l'heure où de plus en plus de commerces encouragent, sinon exigent, le paiement électronique. C'est le cas chez Mendy's, un petit comptoir à salade du Vieux-Montréal, membre d'une petite chaîne d'une dizaine de succursales fondées à Montréal. « Désolé, on ne peut pas payer comptant », confirme une employée au téléphone. « Pour quelle raison ? Je ne sais pas, c'est la politique de la compagnie. » Pour l'instant, rien ne l'oblige à accepter un paiement comptant. La loi sur la protection du consommateur ne contient pas de dispositions qui forceraient un commerçant à accepter tel ou tel mode de paiement, informe Charles Tanguay, responsable des partenariats stratégiques et des relations avec les médias à l'Office de la protection du consommateur du Québec. L'article 1564 du Code civil du Québec précise notamment qu'un paiement fait avec la monnaie ayant cours légal libère le débiteur de sa créance en argent. Toutefois, à notre connaissance, La portée de cette disposition sur une possible obligation d'un commerçant d'accepter, de manière générale, le paiement en argent comptant n'a jamais été testée devant les tribunaux. Cela pourrait également dépendre des faits propres à chaque affaire. Dans un rapport rédigé en 2019 par l'avocat Alexandre Plourde, Argent comptant vers une mort annoncée, Option consommateur recommandait notamment de moderniser la loi sur la monnaie fédérale pour contraindre les commerçants à accepter les espèces que leur offrent les consommateurs et de mettre en place des mesures législatives harmonisant les régimes juridiques de tous les modes de paiements électroniques. Vous écoutez « Ces aînés qui comptent sur l'argent comptant », un dossier de Marc Tison, paru le 23 juin 2024 dans La Presse. Le coût du paiement comptant. Les commerçants ne sont pas nécessairement réfractaires au paiement comptant. Pour les détaillants propriétaires en alimentation, la gestion de l'argent comptant n'est pas considérée comme un problème. Cela s'inscrit dans leur réalité opérationnelle, constate par courriel Samuel Bouchard-Villeneuve, directeur affaires publiques à l'Association des détaillants en alimentation du Québec, ADAC. Le paiement comptant n'est pas le mode de paiement le plus coûteux pour le commerçant. Samuel Bouchard-Villeneuve précise que les frais associés à la manipulation et au transport des billets sont des frais variables en fonction du volume. Les coûts engendrés par la gestion de l'argent comptant ne sont donc pas considérés comme un enjeu, contrairement aux coûts associés au paiement par carte de crédit. Pour chaque paiement par carte de crédit, le commerçant doit payer des frais au taux moyen de 1,5% sur la valeur de la transaction. Un détaillant moyen paie donc plus de 150 000 $ par année aux émetteurs de cartes de crédit dans un contexte où ce mode de paiement est de plus en plus utilisé, dit-il. Les frais pour les paiements Interac prennent plutôt la forme d'un coût fixe par transaction, indépendamment de la valeur de celle-ci. Il s'agit du moyen de paiement le moins dispendieux à gérer et le plus efficient, affirme Samuel Bouchard-Villeneuve. À tout prendre, le paiement en espèces tient encore sa place. Source de fierté. Dans les banques, on a conscience de l'attachement persistant de certains aînés pour l'argent comptant et les services au comptoir. Ce n'est pas une préoccupation parce qu'on observe que plusieurs aînés s'habituent à travailler de façon numérique, affirme Vicky Wistaff, vice-présidente stratégie conseil et performance particulier à la Banque nationale. À peine 2% des transactions en succursale sont effectuées au comptoir, indique-t-elle. On a de plus en plus d'aînés qui transigent de façon numérique, dit-elle, et on est équipé pour les accompagner, que ce soit en succursale ou avec une ligne téléphonique qu'on a dédiée à nos clientèles de 70 ans et plus. Étonnamment, les clients qui apprécient le plus le volet numérique de l'institution sont ceux de 65 ans et plus. Comment l'explique-t-elle? Par leur curiosité, le temps qu'ils ont, l'innovation, répond-elle. L'accessibilité aussi, parce que, pour beaucoup de clients, se déplacer en succursale devient plus compliqué avec l'âge. Ils n'ont pas tous de l'aide pour le faire. Et elle appuie sa démonstration d'une expérience vécue lors d'une de ses visites en succursale. Je me souviens d'une cliente que j'ai moi-même accompagnée, relate-t-elle. Elle attendait en ligne. Puis, on est allé ensemble faire sa transaction au guichet. On a fait son retrait, on a fait son paiement de facture en ligne, et à la fin de la transaction, elle m'a dit « J'ai tellement hâte de raconter ça à mon fils, ce soir il va être tellement fier de moi. » En effet, c'est souvent avec les encouragements et le soutien de leurs proches que les aînés entament leur transition vers les transactions numériques. Mais il y a la manière. Des conseils qui comptent. Pour initier les aînés aux transactions numériques, les proches peuvent payer de leur personne. Pour que tous en tirent profit, voici quelques conseils. Passez par la tablette. Vous savez, nous, les enfants et l'entourage, on a un rôle à jouer pour sensibiliser nos parents, avise Gisèle Tassé-Goodman, présidente du réseau FADOC. Ça se passe souvent par la tablette. C'est plus simple parce qu'on peut la porter chez maman ou papa. Il s'agit de montrer graduellement comment on navigue, montrer ses photos, comment on les sauvegarde. Puis, on laisse l'aîné pitonner, faire des erreurs. Vous écoutez « Ces aînés qui comptent sur l'argent comptant », un dossier de Marc Tison, paru le 23 juin 2024 dans La Presse. Faire valoir les avantages. Il faut présenter les avantages des nouvelles technologies, conseille Brigitte Gilbert, neuropsychologue clinicienne spécialisée en gériatrie. Après plus de 25 ans à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, elle exerce en pratique privée auprès d'une clientèle âgée. Je pense à votre mère par rapport à la carte de débit au guichet. On n'a pas besoin d'attendre avant de passer au comptoir de la banque. On peut retirer des sous les jours fériés et le week-end. Il s'agit de trouver des avantages, puis de voir si ça leur parle. L'information fait son chemin et va peut-être inciter l'aîné à essayer. Les encourager à apprendre. Je leur dirais aussi une chose très positive, à savoir qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre et qu'il n'est jamais trop tard. On peut faire valoir que l'apprentissage met notre cerveau au défi et qu'il possède les compétences cognitives pour le faire, suggère Brigitte Gilbert. On sait qu'il est important de se stimuler intellectuellement. Apprendre à utiliser une tablette ou une nouvelle application, c'est aussi un défi. Ça fait travailler notre cerveau. Être patient. On se dit que ça va prendre 5 minutes, mais non, ça va prendre 1 heure, avance la psychologue. Si on fait cet apprentissage avec eux, si on les accompagne, il faut vraiment avoir le temps et faire preuve de patience. On doit également se poser la question « Est-ce que je suis bon pédagogue ?» Parmi les proches, est-ce que je suis la bonne personne ? On peut se demander qui aurait peut-être plus d'ascendant et plus de temps pour faciliter l'apprentissage. Le faire en personne au bon moment. On pourrait être sur place plutôt que de le faire au téléphone, donc être présent. Il faudrait également choisir un moment où l'aîné se sent peut-être plus alerte cognitivement. Souvent, c'est le matin. À petite dose. Ce que je vois souvent, c'est qu'on veut tout montrer, alors qu'en fait, il faut vraiment montrer peu à la fois. Apprendre à petite dose, constate la psychologue. Dans le cas de votre mère, on irait peut-être d'abord au guichet automatique pour l'utilisation de la carte bancaire. Vous pourriez regarder avec elle les différentes étapes et les noter dans un calepin. Toutes les étapes, même celles qui vous apparaissent évidentes, par exemple, de quel côté on met la carte dans la fente du guichet. Mettre en pratique. Ensuite, on lui demande de mettre les étapes en pratique avec les notes à l'appui. Elle le fait devant vous. Elle s'exerce comme si elle était seule. On lui demandera peut-être de faire 3 retraits de 20 $ pour qu'elle s'approprie la procédure et qu'elle constate que ce n'est pas si complexe. Et évidemment, on y va en dehors des heures de pointe. Savoir se taire. Comme c'est un nouvel apprentissage et que c'est un stress, on a besoin de canaliser toute notre concentration. Si votre mère fait l'exercice avec vous au guichet, par exemple, il ne faudra pas lui parler en même temps, pour lui permettre de se concentrer pleinement sur les étapes. L'accompagner sur le terrain. Pour l'initier au paiement sans contact, on pourra l'accompagner dans quelques courses à la pharmacie ou au supermarché. Même si l'opération est très simple, le fait d'être avec elle va la rassurer. S'il arrive un pépin, vous êtes avec elle. Prévoir de l'argent comptant. Il faudra prévoir de l'argent comptant en plus, en cas de problème, un terminal qui ne fonctionnerait pas, par exemple. Elle peut payer également une fois sur deux en argent comptant. Il s'agit d'être souple. Elle expérimentera quelquefois avec le proche, puis elle se sentira à l'aise de le faire seule. Faire un suivi. En accompagnant l'aîné à quelques reprises pour constater la facilité avec laquelle ça se passe, on le réconforte et on lui donne confiance dans ses compétences. Je trouve que l'accompagnement est souvent très, très bénéfique. Désamorcer les craintes. Il faut regarder avec eux quelles sont leurs craintes. C'est sûr qu'il y a toujours des risques, mais on peut leur opposer les avantages et, à l'égard des craintes d'escroquerie, revoir dans quel contexte ça se produit. On peut les familiariser avec ce qui arrive le plus souvent, leur expliquer comment l'éviter. S'ils ont un doute, ils peuvent nous appeler. Il s'agit de revenir sur les choses de base. Et ça les rassure. Suivre des ateliers. Il y a également des cours qui sont offerts sur les nouvelles technologies numériques. Je pense à la FADOC, rappelle Brigitte Gilbert. Dans un cours qui s'adresse aux aînés, l'animateur a bien en tête qu'il s'agit d'une population âgée et il va adapter son mode de fonctionnement et son enseignement en fonction de cette clientèle. Les ateliers de la FADOC. En effet, depuis plusieurs années, on offre à nos membres de se familiariser avec les nouvelles technologies grâce à nos ateliers FADOC.ca, confirme la présidente de Réseau FADOC, Gisèle Tassé-Goodman. Certains de nos bureaux régionaux dans la province offrent des cours en personne. On a également des ressources sur notre site Web qui offrent des conseils, des astuces pour devenir des citoyens numériques un petit peu plus éclairé. Vous pouvez aider votre aîné à y accéder. C'était « Ces aînés qui comptent sur l'argent comptant », un dossier de Marc Tison, paru le 23 juin 2024 dans La Presse.